Rendez-vous chez messieurs Burberry Haymarket, demandez monsieur Pink. Le diacre nous avait informé en novembre que pour les expéditions de 1921 à 1924, l'Alpine Club et le comité de l'Everest avaient octroyé 50 livres à chaque participant pour son trousseau complet. La plupart de ces grands bourgeois ayant en plus payé de leur poche une partie de leur équipement, il avait décidé de nous allouer à chacun une somme de 100 livres sur le budget de Lady Bromley afin que nous nous équipions, précisant qu'il compléterait si nécessaire. Même avec la liste de matériel établie par le diacre pour ses expéditions de 1921 et 1922, plus la liste actualisée de 1924 donnée par le capitaine John B. L. Noel, son ami cinéaste alpiniste, trouver et acheter nos vêtements et le matériel spécialisé équivalait presque à se préparer pour un voyage en Antarctique. Mais il est vrai que jusqu'ici, toutes les tentatives britanniques de conquête de l'Everest, dont la dernière en date qui avait vu la disparition de Mallory et d'Irvine, avaient pris pour modèle les expéditions au pôle Sud, c'est-à-dire utiliser des porteurs pour déposer des vivres et du matériel à différentes étapes du parcours vers le pôle, ou dans notre cas à différentes altitudes dans la montagne, puis faire des allers et retours entre ces campements jusqu'au moment où un petit groupe trié sur le volet, profitant d'une fenêtre de temps clément, pouvait attaquer le sommet, tout comme Robert Falcon Scott s'était lancé vers le pôle Sud 13 ans plus tôt avec 4 robustes compagnons, envisageant de parcourir les 2500 km aller et retour en traîneau. Dans la mesure où Scott et ses comparses avaient péri durant ce périple mal avisé et malchanceux, j'essayais de ne pas m'apesantir sur la comparaison. Il n'empêche que les vêtements que nous achetions étaient très similaires, avec quelques merveilleuses améliorations modernes, à ceux que portaient Scott et ses hommes lorsqu'ils étaient morts dans le froid de l'Antarctique. Le premier article sur la sacro-sainte liste était un vêtement coupe-vent, et pour le trouver, disait la liste, rendez-vous chez messieurs Burberry Haymarket, demandez monsieur Pink. Jean-Claude et moi étions légèrement intimidés. Ces tailleurs comptaient parmi les plus chics de Londres, fournisseurs d'Ernest Shackleton et tout. Si bien que nous y sommes allés tous les deux, un jour où le diacre était pris par d'autres obligations relatives aux préparatifs. Monsieur Pink, souffrant ce jour-là, était absent du magasin de messieurs Burberry, rue Haymarket, mais un certain monsieur White, à la tenue guindée et à la politesse irréprochable, a passé presque 3 heures à nous aider à choisir des habits et les bonnes tailles, avant de nous laisser repartir avec une facture pour nos achats et la promesse qu'il nous serait livré à notre hôtel l'après-midi même. En fait, les paquets sont arrivés avant nous, alors que nous ne nous étions arrêtés que le temps de boire une pinte au sortir de chez Burberry. Nous nous étions inspirés des tenues en gabardine de Shackleton pour acheter des knickers, des pardessus et des gants. Nous avions pris des mitaines en laine, à mettre sous des moufles, elles aussi en gabardine. Et nous avions ajouté d'épais cache-nez à notre liste de courses chez Burberry. Nous aurions aussi besoin de nous protéger la tête et le visage, pas seulement sur l'Everest, mais sur les nombreux cols à plus de 5000 mètres d'altitude qu'il nous faudrait franchir pendant le trajet de 500 km à travers le Tibet pour rejoindre la montagne. De manière assez curieuse, à mon avis, messieurs Burberry vendaient des casques d'aviateur ou peut-être de motard en cuir doublé de fourrure de renard ou de lapin avec des rabats qui se nouaient sous le menton. Il proposait aussi, et nous en avons acheté une chacun, des cagoules en peau de chamois très fines, douces et respirantes, bordées de cuir. À cet impressionnant mélange de rabats et de lanières en cuir, de fourrures et de boutons en cuivre, s'ajoutaient de grosses lunettes en verre crook que l'on pouvait coudre sur la cagoule en peau de chamois ou le bonnet si on le souhaitait. Le verre épais obscurcissait notre vision, mais nous protégerait les yeux de la terrible luminosité des hautes altitudes. Tous les alpinistes connaissaient l'histoire d'Edward Norton qui, en 1924, avait négligé de mettre ses lunettes pendant sa traversée de la face nord avec Somerville et sa tentative avortée de gravir la grande goulotte qui descend du sommet de la montagne. L'escalade était si technique que Norton avait retiré ses lunettes pendant des heures pour voir où il posait les mains et les pieds. Puisqu'il escaladait le plus souvent sur la roche nue et non pas sur une surface réfléchissante de neige ou de glace, il estimait que le soleil ne lui blesserait pas les yeux. Non seulement il n'avait pas réussi à gravir le dangereux couloir, mais en redescendant au camp 4 ce soir-là, Norton avait été saisi de douleurs aveuglantes dans les deux yeux. Il était atteint d'ophtalmie, une cécité des neiges doublée d'une infection qui l'avait fait souffrir pendant 60 heures consécutives. Il avait fallu aider l'homme aveugle à retourner au camp de base avancé et l'installer dans une tente couverte de sacs de couchage pour empêcher toute lumière de passer. On racontait qu'il avait souffert le martyr dans cette tente. Les vestes Shackleton, ni plus ni moins que des anoraks en coton huilé, avaient permis d'isoler les vêtements de laine de l'humidité lors des précédentes expéditions, mais n'avaient que très peu gardé la chaleur malgré leur prétendue résistance au vent. Le diacre avait l'idée folle qu'un alpiniste, du moins les trois alpinistes que nous étions, pourrait peut-être survivre dehors après le coucher du soleil sur l'Everest grâce au parka en duvet d'oie de Finch et aux vestes Shackleton imperméables. Peut-être, seulement peut-être, aurions-nous des habits assez chauds pour passer la nuit dans un bivouac en plein air à plus de 7600 mètres d'altitude. Les quelques couches de vêtements que portaient Mallory et Irvine au moment de leur disparition, nous avait expliqué le diacre, ne les auraient pas maintenus en vie une heure s'ils étaient restés assis sur l'arête nord-est après la nuit tombée. « Je ne peux pas vous garantir que les parkas en duvet de M. Finch feront la différence entre la vie et la mort là-haut », nous avait-il dit quand nous avions choisi les vêtements de dessus, quand il avait choisi pour être précis. Mais je sais que Finch a eu plus chaud que nous tous en 22, que le duvet est plus léger que plusieurs épaisseurs de laine, et que la surveste Shackleton devrait tenir le rembourrage de duvet au sec, donc c'est un pari à tenter. Je n'ai jamais aimé le mot « pari » quand il s'applique à nos vies sur la plus haute montagne du monde. Le lendemain de notre visite chez Messieurs Burberry, Jean-Claude et moi avons accompagné le diacre dans une virée chaussure chez Fac Bros à Jermyn Street. Là, on nous a fait essayer un nouveau modèle de bottes en feutre à semelles de cuir, conçu pour l'exploration polaire évidemment, suffisamment large pour y loger au moins trois paires d'épaisses chaussettes de laine. Parmi les alpinistes de 1924, peu avaient choisi de porter les bottes en feutre une fois passé le glacier inférieur, si bien que personne ne savait vraiment si elles convenaient pour l'escalade sur roche ou sur glace à haute altitude. « Pourquoi ne puis-je pas utiliser mes propres bottes d'escalade ?» a demandé Jean-Claude. « Elles remplissent très bien leur office depuis des années. Faut juste les ressemeler de temps en temps. » Lors des deux premières expéditions, nous avons tous porté nos bottes ferrées, même Finch. « Et ils ont fait de même l'année dernière, » a répondu le diacre. « Et nous avons tous souffert du froid. Certains ont eu des gelures et ont même perdu des orteils. » L'année dernière, Sandy Irvine a expliqué à John Noel que la raison en était que ses bottes d'alpinisme sont pourvues non seulement de clous, quel que soit le modèle, et chacun en avait un différent, mais aussi de petites plaques métalliques entre les semelles intérieures et extérieures, pour donner une adhérence supplémentaire. « Et alors ?» ai-je demandé avec impatience. « Est-ce que ces coûteuses bottes ferrées donnaient vraiment une meilleure adhérence ? Dans ce cas, les plaques de métal avaient leur raison d'être, non ? Elles ne doivent pas peser bien lourd. » Le diacre a secoué la tête avec cet air de dire « Non, vous n'y êtes pas du tout. » Irvine a suggéré que nous utilisions moins de clous, en partie par souci d'allègement. Dans l'armée, on nous disait que tout kilo au pied équivalait à 10 kilos sur notre dos. Pendant la guerre, nous avions des bottes volumineuses, mais légères, pour pouvoir marcher le plus longtemps possible. Mais ce n'était pas le poids qui préoccupait le plus Sandy Irvine. C'était la transmission du froid. « La transmission du froid ?» a répété Jean-Claude comme s'il n'était pas sûr de l'expression anglaise. Les semelles de cuir et les grosses chaussettes offrent une certaine protection contre le froid terrible de la roche et de la glace dans la montagne. Mais Irvine avait une théorie selon laquelle ses bottes ferrées contribuaient à la déperdition de la chaleur du corps qui s'échappait via les pieds par ses plaques et ses clous de métal. La chaleur va vers le froid, bien sûr. Voilà pourquoi, d'après Irvine, il y avait eu tant de cas de gelure au pied. Lors de notre expédition, Henry Morshed a dû se faire amputer d'un orteil et de plusieurs phalanges à notre retour en Inde. Il a postulé pour l'expédition de 1924, mais a été refusé à cause de ses blessures. Je crois que Sandy Irvine avait raison et que les bottes ferrées favorisent la perte de chaleur. « Alors qu'est-ce qu'on fait ici ? » ai-je demandé. Je pourrais aussi bien porter mes vieilles et fidèles bottes d'alpinisme si les modèles plus chers doivent me refroidir les pieds plus vite. Ma remarque apparut puérilement agressive, même à mes propres oreilles. Le diacre a sorti plusieurs papiers de la poche de sa veste et les a dépliés. Chaque feuille était couverte de croquis soigneusement dessinés à l'encre ou au crayon, avec des colonnes de texte manuscrits de chaque côté. L'orthographe était épouvantable, mais les instructions très claires. Sandy à Irvine proposait une modification de la classique botte d'alpinisme, montrant où il fallait ajouter des couches de feutre entre la trépointe et la semelle cloutée. Le résumé d'Irvin, le diacre a confirmé qu'il s'agissait bien des notes que ce dernier avait données au capitaine Noël quelques jours avant sa disparition avec Mallory, s'achevait ainsi. Les bottes doivent être peu cloutées, chaque gramme compte. Quelle piteuse orthographe, ai-je déploré en brandissant la feuille comme une pièce à conviction. Tout le monde savait, après des mois d'articles dans les journaux et d'éloges funèbres, qu'Andrew Sandy Comyn Irvin avait fréquenté le collège Merton à Oxford. L'effet du manque d'oxygène en haute altitude? Le diacre a secoué la tête. Noël m'a dit qu'il avait rarement rencontré un jeune homme aussi intelligent, presque un génie de l'ingénierie et du bricolage sur le terrain. Mais pour une raison quelconque, il n'a jamais appris à écrire correctement. Il faisait partie de l'équipe d'aviron d'Oxford, l'OUBC, et il était membre du scandaleux club Myrmidon à Merton. « Scandaleux en quoi ?» a demandé Jean-Claude. Il examinait les croquis d'Irvine et a levé la tête surpris. « C'est un club de riches jeunes gens, excellents athlètes pour la plupart, dont la spécialité consiste à briser les règles et les fenêtres de l'université », a expliqué le diacre. Il a récupéré les feuilles de papier et les a tendues à celui des frères Fagg qui discutaient de bottes avec nous. Nous devons maintenant décider si nous suivons le schéma d'Irvin et adoptons les nouvelles bottes d'alpinisme potentiellement plus chaudes, si nous optons pour le nouveau modèle en feutre, pour les bottes super rigides que Jean-Claude nous a demandé d'utiliser avec les nouveaux crampons qu'il a conçus, ou si nous emportons les nôtres. Ne pouvons-nous pas prendre les quatre modèles ? A demandé Jean-Claude. Je vous montrerai bientôt pourquoi les bottes rigides que j'ai réclamées seront peut-être nécessaires sur l'Everest. Je suis partisan des quatre. « Si l'argent de Lady Bromley le permet. »« Il le permet, » a dit le diacre. Il a montré les schémas et dit à Monsieur Fagg, « Deux paires chacun de ces bottes spéciales, avec l'épaisseur supplémentaire de feutre et sans que les plaques de métal touchent les clous. Deux paires de bottes ultra rigides, mon ami Jean-Claude vous donnera une feuille avec les spécifications, et deux paires chacun des nouvelles bottes Lapone en feutre. Nous avons le temps de faire prendre nos mesures. » La parka en tissu de montgolfière et le nouveau modèle de bottes d'Irvine n'ont cependant pas été les plus grands changements apportés à l'équipement de notre petite expédition de 1925. Dès qu'il nous avait rejoints après son voyage en France, J.C. nous avait expressément demandé 2 jours de notre temps avant la fin du mois de janvier. Le diacre avait répondu que c'était impossible. Il n'avait pas 2 jours à perdre entre janvier et la fin février, date prévue du départ en Inde. « C'est important, Richard », avait insisté Jean-Claude. À cette époque, J.C. n'utilisait le prénom du diacre qu'en de rares occasions, et j'étais toujours amusé d'entendre sa prononciation française. « Très important. » Au point que le succès ou l'échec de l'expédition puisse en dépendre, le ton du diacre n'avait rien d'amical. « Oui. » J.C. nous avait regardés l'un après l'autre. « Je crois qu'effectivement... » Ces 2 jours peuvent être décisifs dans le succès ou l'échec de notre expédition. Le diacre avait soupiré et sorti de la poche de sa veste un petit carnet contenant un calendrier. Le dernier week-end du mois, avait-il fini par dire, les 24 et 25 janvier. J'ai plusieurs choses importantes, je les repousserai. C'est un week-end de pleine lune, est-ce que ça change quelque chose? Possible. Avait répondu Jean-Claude. Soudain, son grand sourire juvénile avait illuminé son visage. Possible que la pleine lune change quelque chose. Oui. Merci, mon ami. Nous nous sommes mis en route le samedi 24 au lever du soleil, ou ce qui passait pour tel en cette journée grise et glaciale de la fin janvier, où une légère neige perçait la brume. comme il ne possédait pas d'automobile, le diacre en avait emprunté une à son ami Dick Summers. Une Vauxhall qui, dans mon souvenir, mesurait au moins 10 mètres de long, avec 3 rangées de sièges, plein de place pour les jambes, et des roues qui m'arrivaient presque à la poitrine. Ironie de l'histoire, a expliqué le diacre, c'était dans ce même véhicule que 2 ans plus tôt, Dick Summers avait effectué la première traversée en voiture dans les deux sens, de la mauvaise route gravillonnée, guère plus qu'une piste, entre l'école de Rhinose et de Arknott dans le Lake District. Quand je lui ai fait remarquer que l'ironie m'échappait, le diacre a allumé sa pipe et précisé « Vous avez raison ». J'ai oublié d'ajouter que si Summers était au volant, Sandy Irvin se trouvait à l'arrière, en compagnie de 2 séduisantes jeunes femmes. À peine sorti du garage de Summers, nous avons compris que l'énorme Vauxhall était plus adapté aux expéditions estivales sur de hauts cols qu'à la conduite hivernale. C'était une décapotable, et s'il nous a fallu 30 minutes ponctuées de jurons et de doigts écrasés pour réussir à soulever et à fixer la capote au mécanisme incroyablement compliqué, et 1 demi-heure supplémentaire pour boutonner et fermer correctement les rabats latéraux et les fenêtres souples, quelques kilomètres dans les rues de Londres ont suffi à nous démontrer que la carrosserie de cette fichue bagnole avait plus de trous qu'une passoire. Au bout de 10 minutes, la neige nous soufflait au visage et s'amoncelait sur les lattes du plancher, sur nos pieds et nos genoux. « On en a pour combien de temps déjà ?» a demandé le diacre à Jean-Claude qui conduisait. J.C. ne nous avait pas encore révélé notre destination, ce qui agaçait d'autant plus notre leader, même s'il en fallait peu pour l'agacer en ce moment. La quantité de travail logistique qu'il abattait pour notre petite expédition de recherche lui laissait à peine le temps de dormir ou de manger, encore moins de se reposer ou de faire de l'exercice, et il était visiblement épuisé. « Moins de 6 heures de route, m'a-t-on dit, par une belle journée d'été ?» a répondu gaiement Jean-Claude. Tenant fermement l'énorme volant de ses mains gantées, il a crachouillé un peu de neige. « Peut-être un peu plus aujourd'hui. 10 heures. » La voix du diacre ressemblait à un grognement alors qu'il tentait d'allumer sa pipe. Il avait du mal puisqu'il portait nos nouvelles mitaines sous une paire de moufles en laine et une autre en gabardine. Au moins étions-nous vêtus comme au pôle sud pour cette sortie en voiture. « Nous aurons de la chance si nous y arrivons en 12 », a répondu Jean-Claude d'un ton léger. « Installez-vous confortablement et détendez-vous, s'il vous plaît. » Mais 2 bonnes raisons nous en empêchaient. D'abord, la Vauxhall ayant, théoriquement, un chauffage dans le tableau de bord, nous étions tous les 3 penchés vers lui, même si le machin ne soufflait que de l'air froid. Ensuite, Jean-Claude ayant peu l'habitude de conduire, a fortiori en Angleterre, ce voyage sous la neige et sur le verglas était terrifiant, même entre ces moments de panique où il ne savait plus de quel côté de la route rouler. La neige s'intensifiait. À part nous, seuls quelques camions étaient assez téméraires pour circuler ce jour-là. Nous partions vers le nord-ouest et après avoir traversé Hemel Hempstead, Coventry, puis la noire cité de Birmingham, nous avons pris la direction de Shrewsbury. Nous allons dans le nord du pays de Galles, a soupiré le diacre. Il a presque réussi à faire rimer Galles avec râle. La banquette du fond, ainsi que la moitié de celle sur laquelle j'étais assis, était occupée par de volumineux sacs de voyage que nous avions aidé Jean-Claude à charger dans la voiture. Ils étaient très lourds. Et le fracas métallique qu'ils émettaient lors de nos folles embardées pour stabiliser la voiture sur le verglas me laissait deviner qu'ils contenaient une quantité impressionnante de matériel. « Ce sont les appareils à oxygène que vous avez apportés » ai-je demandé, agrippé au siège devant moi comme au garde-corps d'un wagonnet sur des montagnes russes. « Non !» a répondu Jean-Claude d'un ton distrait en se mordillant la lèvre inférieure. Il tentait de faire passer la Vauxhall de 3,50 m de large entre le camion arrivant en sens inverse et l'épaisse haie qui bordait sur la gauche la route pentue et couverte de neige. Le diacre a retiré sa pipe de sa bouche. Pendant 1 seconde, j'ai presque eu la tentation de tendre les mains vers elle, la pipe, comme source de chaleur plutôt que vers le prétendu chauffage de la voiture. « Impossible, » a-t-il lâché d'une voix sinistre. « Vous savez bien que Finch doit les envoyer directement de Zurich à Liverpool. » La nuit tombait. Pour tout dîner, nous nous étions contentés de sandwichs gelés, littéralement, il y avait des cristaux de glace dessus, que nous avions emportés dans un panier, à présent rempli de neige. Et d'une thermos de soupe qui avait perdu toute chaleur à peu près en même temps que nous, c'est-à-dire 10 heures plus tôt, quelque part dans les faubourgs de Londres. La neige tombait toujours. Les phares de la Vauxhall produisaient autant de lumière que 2 chandelles vacillantes. Peu importait. Personne d'autre n'était assez stupide pour s'aventurer sur les routes ce soir-là. La pleine lune souhaitée par Jean-Claude s'était peut-être levée. Nous ne le saurions jamais. Le monde était une masse blanche tourbillonnante à travers laquelle Jean-Claude conduisait résolument, clignant des paupières pour chasser les flocons de neige de ses yeux qu'il plissait dans l'obscurité immaculée devant nous. « Nous allons au Mont Snowdon », a dit le diacre. Il avait même renoncé à allumer sa pipe, à cause du vent qui s'infiltrait par les interstices de la capote et les rabats des fenêtres. « Non », a répondu Jean-Claude l'air sombre. « La dernière fois que je l'avais vu sourire, c'était juste après Birmingham. » Nous n'avons pas atteint notre destination ce soir-là. La faute à la première des 2 crevaisons qui ont agrémenté notre voyage. Heureusement, Dick Summers avait eu la prévoyance de fixer 2 roues de secours au marchepied arrière-gauche. Je ne pouvais monter ou descendre de la voiture que par le côté droit. Malheureusement, le cric et les autres outils dont nous avions besoin pour changer la roue, nous avions crevé au milieu de la route, de sorte que si un camion ou tout autre véhicule avait soudain émergé du blizzard, c'en aurait été fini de nous, nous n'avions pas de lampe torche pour signaler notre présence, pas même une bougie, encore moins de balise lumineuse, devait se trouver au fond du minuscule coffre de l'énorme Vauxhall. Et le coffre était fermé. Et la clé de contact ne l'ouvrait pas. Nous avons lancé une telle quantité de jurons cette nuit-là qu'il en flotte sans doute encore quelque part près de la frontière entre l'Angleterre et le pays de Galles. Finalement, l'un de nous a eu l'idée de donner un bon coup de poing dans le haillon, songeant qu'il était peut-être gelé et non pas verrouillé, et le battant de métal s'est ouvert, comme par magie, révélant un cric, un démonte-pneu et d'autres outils semblant faits pour une auto 5 fois plus petite que la gigantesque Vauxhall. Qu'importait, en moins de 90 minutes, le pneu était changé. Nous avons passé la nuit dans une auberge pas très propre et hors de prix, dans un endroit appelé Serigi Drudion. Il était trop tard pour les plats chauds qu'ils avaient servis plus tôt, et le propriétaire a refusé de nous ouvrir sa cuisine. La salle du pub possédait une cheminée, et si l'aubergiste, en allant se coucher, s'est avancé vers nous dans l'intention manifeste de nous interdire d'ajouter du charbon sur le feu, les regards assassins que nous lui avons jetés tous les trois l'ont arrêté net. Nous sommes restés près du petit foyer jusqu'à minuit en essayant de nous dégeler, puis nous nous sommes traînés jusqu'à de minuscules chambres à l'odeur bizarre et presque aussi froide que la Vauxhall. Nous avions apporté nos meilleurs sacs de couchage en duvet, J.C. nous ayant averti que nous camperions ce samedi soir, mais le froid et l'odeur épouvantable se sont révélés trop durs à supporter et, vers 3 heures du matin, j'ai rajouté plusieurs couches de vêtements et je suis retourné à pas traînant dans la grande salle pour voir si je pouvais ranimer la flambée. C'était inutile, J.C. et le diacre étaient arrivés avant moi, avaient fait repartir le petit feu de charbon de bois et ronflaient tous les deux avachis dans 2 fauteuils à oreilles. Il y en avait un 3e dans la pièce, je l'ai traîné aussi près que possible de la cheminée, sans que le grincement réveille l'un ou l'autre de mes compagnons d'escalade. J'ai disposé le sac de couchage sur moi comme une couverture et dormi à point fermé jusqu'à ce que l'aubergiste nous chasse de nos nids douillets à 6 heures du matin. Ce dimanche 25 juin 1925 a été l'un des plus beaux jours de mon existence, quand bien même je n'avais que 22 ans et encore presque toute la vie devant moi. Mais pour être honnête, jamais dans les 7 décennies qui ont suivi, je n'ai partagé mes plus beaux jours avec quiconque, comme j'ai partagé ce jour-là, ainsi que d'autres jours et d'autres moments dans les mois suivants, avec mes amis et frères de cordée, Jean-Claude Clairoux et Richard Davis Deacon. Une épaisse neige recouvrait tout, mais le ciel était bleu et la journée ensoleillée. La plus ensoleillée que j'avais connue en Angleterre, à l'exception peut-être de la radieuse journée d'été où nous avions rendu visite à Lady Bromley. Il faisait encore très froid, moins 20 degrés au bas-mot, si bien que la neige ne fondait pas. Mais l'énorme Vauxhall, avec son puissant moteur et ses gigantesques pneus à crampons, était dans son élément. Même sur les routes de la campagne galloise qu'aucun véhicule n'avait parcouru ce matin-là, nous filions à une vitesse confortable de 50 km à l'heure. Très vite, ne supportant plus l'air confiné de la Vauxhall, nous nous sommes arrêtés au milieu de la chaussée déserte pour décapoter. Nos traces parallèles disparaissaient derrière le dernier col, telle une voie ferrée noire dans un univers blanc. Et nous avons posé les fenêtres amovibles et les bâches en toile des côtés sur le sol, au pied des énormes sacs de Jean-Claude. Nous avions tous trois enfilé nos 5 épaisseurs de laine sous la parka matelassée en tissu de montgolfière rapportée de Zurich et la gabardine Shackleton de chez Burberry. JC et moi portions aussi notre casque d'aviateur ou de motard en cuir, notre cagoule, ainsi que les lunettes en verre crook anti-reflet. Encore aujourd'hui, je regrette qu'il n'y ait eu personne pour nous prendre en photo alors que nous traversions toute la région désertique du Mont Snowdon. Nous devions ressembler aux envahisseurs martiens de Monsieur Wells. Notre destination, la destination secrète de Jean-Claude, n'était pas le Mont Snowdon, très fréquenté par les grimpeurs en hiver, ni les dalles de Penny Pass, chères à George Mallory, que nous avions escaladées à l'automne précédent. Notre destination, que nous avons atteinte en milieu de matinée ce dimanche de janvier, était le lac Glenidwell, et ses alentours faits de moraines, de roches moutonnées, d'après la description de Jean-Claude, mais qui m'étaient familières depuis nos escalades dans les Alpes. De falaises aux stries brillantes, d'éboulis et de blocs erratiques, des rochers apportés par des glaciers disparus depuis longtemps et posés au milieu de plaines rocailleuses, telles d'énormes balles de hurling oubliées par des géants. Les strates géologiques étaient partout visibles sur les parois, les dalles et les pentes. Le Glyn, le lac alors gelé, se nichait dans un paysage de roches verticales. JC nous a montré les hauts pics de Higgledefjord et de Higgarn quand nous sommes descendus de voiture et nous sommes dégourdis les jambes dans la neige. Jean-Claude et moi portions des guêtres en coton huilé pour protéger de l'humidité nos hautes chaussettes de laine. Le diacre, lui aussi en knickers, avait mis des bandes moltières à l'ancienne, quoique en cachemire le plus fin, et ressemblait aux alpinistes britanniques tirés à 4 épingles que l'on voyait sur les photos des expéditions dans l'Everest de 1921, 1922 et 1924. Avec ses knickers kaki et sa chemise en laine kaki sous sa parka ouverte, il évoquait aussi le soldat, ou capitaine, qu'il avait été durant la Grande Guerre. C'était presque perturbant de le voir ainsi, en couleur camouflage et haute bande moltière. Si sa tenue lui rappelait de douloureux souvenirs de guerre, il n'en a rien montré tandis qu'il s'étirait au sortir de la voiture et penchait la tête en arrière pour regarder les pics et les cascades de glace autour de nous. Il a sorti sa pipe de sa vieille veste de laine fatiguée, l'a allumée, et je me souviens que l'odeur de son tabac dans l'air froid était comme une drogue puissante. Je craignais qu'il ne nous faille encore marcher 2 heures jusqu'au lieu d'escalade, comme sur la maudite vire de la pipe de Mallory. Mais Jean-Claude avait garé la Vauxhall à 100 mètres seulement de sa destination. Il avait cherché des chutes d'eau d'été transformées en cascades de glace, de hautes parois rocheuses glacées qui se terminaient par d'intimidants surplombs. Il les avait trouvées ici, dans cette vallée, à l'extrémité du Glenidwell, sous les pentes abruptes du Coombidwell. Nous avons porté les lourds sacs jusqu'au pied de l'une des plus grandes cascades de glace, où il a laissé tomber son chargement dans la neige en nous faisant signe de l'imiter. Ce qu'il nous a raconté ensuite allait transformer à jamais l'escalade alpine et himalayenne. « Commencez par enfiler les nouvelles bottes que messieurs Fagg nous ont fabriquées », a dit Jean-Claude. Il a sorti 2 paires rigides de l'un des sacs de toile. Il portait déjà les siennes. Le diacre et moi avons ronchonné, mais trouvé 2 blocs sur lesquels nous asseoir pour retirer nos nouvelles bottes alpines et chausser les autres d'une raideur ridicule. Nous avions essayé de marcher avec à Londres et les avions trouvées affreusement inconfortables. Les plus agréables étaient les hautes bottes lapones en feutre et cuir qui donnaient l'impression de marcher avec des mocassins indiens ultra chauds. Elles ne conviendraient pas, hélas, pour la très longue traversée du Tibet jusqu'à l'Everest, mais elle serait parfaite dans les campements. Après avoir fait quelques pas maladroits avec ses bottes qu'un cambrion entier rendait rigides, le diacre et moi avons lancé un regard courroucé à Jean-Claude. Ces stupides godillots n'avaient absolument aucune souplesse. Jamais nous ne pourrions les briser pour en faire de confortables chaussures de marche ou d'escalade. J.C. n'a pas paru affecté par nos regards noirs. Il était de toute façon trop occupé à sortir une ribambelle d'objets en métal ou en métal et bois de ses trois gros sacs à malice.
« Qu'est-ce que c'est ?»
nous a-t-il demandé en brandissant deux vieux crampons que je l'avais souvent vu utiliser. « Des crampons ?» ai-je répondu. J'ai détesté la façon dont ma voix montait dans les aigus à la fin du mot. On aurait dit un écolier. « Des crampons !» ai-je répété plus fermement.
« Et à quoi servent-ils »
a-t-il continué de son ton de maître d'école à peine modulé d'accent français. « À traverser les glaciers et à monter des pentes enneigées si elles ne sont pas trop abruptes. »
« Combien de pointes ont-ils ?»«
De pointes » ai-je demandé bêtement. « Les dents en dessous, » a dit le diacre. Il jouait encore avec sa maudite pipe. J'ai eu envie de le frapper avec l'une des longues stalactites pendant sur la cascade de glace devant nous. « 10 pointes, ai-je répondu. J'avais essayé de visualiser mes crampons chez moi et de compter mentalement les pointes. Quel imbécile! Je les utilisais depuis l'adolescence. 10.
Pourquoi ne s'en sert-on pas davantage en alpinisme ?
A demandé Jean-Claude.
Pourquoi est-ce qu'on ne les mettra pas sur l'Everest ?
Sa voix douce et innocente m'a alerté. Il y avait un piège. J'ai regardé le diacre, mais il était soudain très occupé à rallumer sa pipe. Parce que ces trucs ne sont pas pratiques sur le roc, ai-je fini par répondre. Je supportais de moins en moins bien ce rôle de cancre.
Il n'y a que du roc en haut de l'Everest ?
J'ai soupiré. Non, Jean-Claude, il n'y a pas que du roc en haut de l'Everest, mais il y en a beaucoup. On peut utiliser les crampons dans les champs de neige s'ils ne sont pas trop inclinés. Mais les bottes ferrées sont plus adaptées, elles ont une meilleure adhérence. La face nord de l'Everest et la majeure partie des arêtes nord-est et est, d'après les comptes rendus de l'Alpine Club et ce que les ascensionnistes de l'expédition de 1924 en ont dit, consiste essentiellement en dalles inclinées, comme les ardoises sur un toit pentu, très pentu.
Les crampons seraient donc déconseillés dessus.
J'ai eu un professeur de géométrie au lycée qui nous interrogeait de cette manière et sur ce ton-là. Je le détestais.
Tout à fait déconseillé, ai-je dit. Ce serait comme de marcher sur des échasses d'acier.
Ça avait été difficile à prononcer. Jean-Claude a lentement hoché la tête, comme s'il venait enfin de comprendre les bases de l'escalade en haute montagne.
Et qu'en est-il du couloir de Norton ?
C'est ainsi que les grimpeurs surnommaient désormais la grande goulotte de dalles et de neige montant droit vers la pyramide sommitale de l'Everest, sur la face nord. Un an plus tôt, Edward Norton et Howard Somerwell, Norton marchait en tête et n'était pas encordé, avaient quitté l'arête est pour se tailler un chemin sur la face nord, au-dessus de ce qu'on appelle la bande jaune, à plus de 8530 mètres d'altitude. Tandis que Somerwell, qui ne se sentait pas bien, traînait loin derrière, Norton avait atteint la grande goulotte et tenté de gravir ce couloir quasi vertical. Mais la neige lui arrivait presque à la taille, et là où il n'y en avait pas, les dalles inclinées étaient verglacées. Prenant soudain conscience de la précarité de sa position, un coup d'œil à ses pieds lui montrant un précipice de 2500 mètres jusqu'au glacier du Rongbuck, Norton avait abandonné sa tentative d'atteindre le sommet. Il était redescendu très lentement vers Somerwell et lui avait demandé d'une voix tremblante s'il pouvait s'encorder. Il n'était pas rare de ressentir cette soudaine panique après des initiatives hardies au-dessus de vertigineuses à pic, même dans les Alpes. Comme si le cerveau, suivant un brusque instinct de survie, prenait le pas sur l'adrénaline et l'ambition des alpinistes les plus courageux. Ceux qui ne tenaient pas compte de cette panique dans des situations extrêmes, comme Georges Mallory, ne revenaient pas souvent de leur ascension. Norton n'en avait pas moins accompli un exploit dans ce couloir et établi un nouveau record d'altitude à 8570 mètres, seulement dépassé, peut-être,
par Mallory et Aervin lors de leur ultime et fatal assaut le long de l'arête nord-est battue par les vents. Mais la plupart des prétendants à la conquête de l'Everest jugeaient le couloir de Norton infranchissable, trop abrupt, trop de neige instable, trop d'escalade verticale, une sanction trop grave au moindre faux pas, après trop d'heures d'efforts trop intenses dans un endroit trop haut et trop froid.
Pourquoi ne pas utiliser les crampons pour gravir le couloir de Norton ? A demandé Jean-Claude. Ou même les rampes de neige sur les arêtes, est ou nord-est, où seuls Mallory et Aervin se sont aventurés ?
La fin de cette phrase m'a donné des sueurs froides. Il est vrai aussi que j'avais retiré la veste montgolfière de Finch et qu'une brise glaciale soufflait du Coumidoual et sur le Glinidoual.
Parce qu'on ne peut pas marcher avec des crampons sur des pentes pareilles, ai-je répondu avec irritation, ni même dans les champs de neige sous leur camp supérieur, à 8200 mètres.
Et pourquoi ? A encore demandé Jean-Claude avec cette suffisance gauloise tout à fait agaçante.
Parce que les chevilles et les pieds humains ne fléchissent pas comme il faut, bon Dieu ! Et parce que les crampons ne peuvent pas accrocher sur des pentes raides quand le poids du grimpeur n'est pas dessus.
Vous le savez très bien, Jean-Claude.
Oui. « Je le sais »,
a-t-il acquiescé en laissant tomber ses vieux crampons.
« Je crois que notre ami a quelque chose à nous montrer »,
a dit le diacre. Il parlait entre ses dents serrées, tandis que des volutes de fumée montaient du foyer de sa pipe. Jean-Claude a souri, s'est penché sur son gros sac et en a sorti un seul crampon de métal flambant neuf. Il m'a fallu quelques secondes pour voir la différence.
« Il y a des pointes de vent, ai-je dit, comme des cornes. »«
Des crampons 12 pointes, a dit Jean-Claude d'un ton à présent direct et affairé. J'ai entendu les glaciéristes allemands en parler, et j'ai demandé à mon père de les concevoir et de les fabriquer. »
Nous savions que le père de Jean-Claude, un ancien forgeron, dirigeait désormais une des plus grosses fonderies, peut-être pas de France, mais du moins de Chamonix. L'entreprise de M. Clairoux avait prospéré grâce aux commandes de l'État français et dans une moindre mesure des gouvernements anglais et américains durant la Grande Guerre. Il produisait aujourd'hui aussi bien des tuyaux en acier que des instruments dentaires.
Ça paraît dangereux, ai-je dit.
Ça l'est. Pour la montagne qui ne veut pas être vaincue.
Je crois comprendre, a dit le diacre en s'avançant pour saisir le crampon à l'aspect redoutable.
On plante les pointes et on fait reposer son poids sur le cambrion presque inflexible de la nouvelle botte rigide, en s'en servant comme d'un marchepied. Et cela même, théoriquement, sur de la glace presque verticale.
Oui, a confirmé Jean-Claude, mais pas seulement presque verticale, mon ami, sur des parois de glace verticale, ou pire que verticale. Je les ai testés en France. Nous les testerons ici aujourd'hui.
J'avoue que mon cœur s'est accéléré. Je n'ai jamais aimé l'escalade sur la glace. Je déteste les surfaces sur lesquelles mes pieds ne peuvent pas trouver de prise, même ténue. En entendant le « nous les testerons aujourd'hui », j'ai senti ma peau froide se couvrir de sueur.
Mais ce n'est pas tout, a poursuivi Jean-Claude. Montrez-moi vos piolets, mes amis.
Nous les avions apportés, bien sûr. J'ai ramassé le mien dans la neige et l'ai posé devant moi. Un long manche en bois avec une lame et une panne en métal au bout. Le diacre a pris le sien et s'est appuyé dessus.
« Combien mesure le vôtre, Jake ?» m'a demandé Jean-Claude.
« 96 centimètres. Je le préfère assez court pour pouvoir tailler des marches sur les pentes raides. »
« Et le vôtre, Richard ?»«
1m20. Désuet, je sais. Comme moi. » Jean-Claude s'est contenté de hocher la tête. Puis il a plongé la main dans son sac bourré à craquer et en a sorti une série de piolets qui n'en étaient pas du tout. Le plus long ne devait pas mesurer plus de 60 centimètres. Bon sang, on aurait dit des marteaux, avec différentes sortes de lames et de pannes au bout de chaque manche en bois. Oh ciel, des manches en acier. Le père de JC n'avait pas chômé dans son usine.
C'est vous qui les avez dessinés ? A demandé le diacre en saisissant l'un de ces ridicules marteaux.
Haussement d'épaule de JC.
En m'inspirant de ce que les Allemands ont fait cette année,
Vous me l'avez dit vous-même en rentrant de Munich. J'ai donc gravi des voies glacées avec eux en décembre à Chamonix, avec de jeunes Allemands. Observer leurs nouvelles techniques, utiliser certains de leurs équipements dernier cri, puis j'ai ajouté mes propres variantes à l'usine de mon père pour améliorer leur modèle.
Ce ne sont pas des piolets, j'en bafouillais presque.
Ah bon?
Non, on ne peut pas faire de randonnée avec ces machins-là. On ne peut pas prendre appui dessus. On ne peut même pas tailler des marches de glace dans une pente.
Jean-Claude a levé un doigt. Au contraire, a-t-il répondu, saisissant l'un des cinq modèles posés sur son sac.
Celui-là ressemblait à un piolet traditionnel, avec manches en bois et tout, mais qui serait resté sous la pluie et aurait rétréci des deux tiers. Et à la place de la panne en forme d'herminette, l'une des extrémités était contondante comme un marteau.
C'était un marteau. Ce marteau à glace est parfait pour tailler des marches sur une forte pente enneigée ou glacée. Grâce à lui, on n'a pas à se pencher en arrière, au risque de perdre l'équilibre comme on le devrait avec nos anciens piolets plus longs.
J'ai secoué la tête. Celui-ci est encore plus court, a dit le diacre montrant un instrument tout en acier, avec une sorte de base filetée et pointue, une longue lame plate d'un côté et une panne très courte de l'autre.
J.C. a souri en le ramassant, puis l'a tendu au diacre qui l'a pris dans sa main libre.
Léger. En aluminium?
Non, en acier, mais avec un manche creux. C'est ce que mon père et moi appelons le piolet court techniquement incurvé, à utiliser sur des pentes de glace abrupte, parfait pour tailler des marches. Celui-là, qui est légèrement plus long avec un manche en bois et qui ressemble davantage à une version courte du piolet traditionnel, mais avec une longue lame courbe et crantée, nous l'avons appelé le piolet à courbe inversée. On l'utilise,
il s'est tourné vers le mur de glace verticale derrière nous,
pour ça.
Le diacre m'avait passé les deux piolets courts et frottait la barbe sur ses joues et son menton. Il n'avait pas pris le temps de se raser ce matin-là, bien que nous ayons fini par obtenir de l'eau chaude dans cette auberge détestable.
« Je commence à comprendre », a-t-il dit. Maniant les deux machins comme des armes, je faisais mine de les abattre, sur ce que j'imaginais être des crânes français.
« Comment avez-vous trouvé cet endroit, Kumidwall ?» lui a demandé le diacre. Il se démanchait le cou pour regarder la paroi de glace verticale qui brillait, diabolique, dans le soleil de cette fin de matinée. Un surplomb de roc et de glace pendait à 60 mètres au-dessus de nous, tel un poids géant susceptible de nous tomber dessus à tout moment. Il était trop large et épais pour tenter une ascension libre. Le roc lui-même faisait au moins deux fois la taille de Jean-Claude, et la saillie de glace au moins 1,5 mètre. Il paraissait impossible de le franchir pour atteindre la dernière longueur d'environ 2,50 mètres jusqu'au sommet.
« J'ai demandé à des glaciéristes britanniques de m'indiquer les meilleurs endroits », a répondu Jean-Claude.
« Il y a des glaciéristes britanniques ?» s'est étonné le diacre.
J'ignorais si sa surprise était feinte. J'avais toujours cru qu'il connaissait tous les grimpeurs britanniques, ainsi que la plupart des Français et des Allemands. « Très peu », a admis J.C. avec un sourire.
« Ensuite ?» a demandé le diacre en montrant le sac, manifestement impatient de découvrir quelle autre bizarrerie il recelait.
Jean-Claude s'est retourné, a fait un pas en arrière et, se protégeant les yeux, il a à son tour levé la tête vers la paroi de glace et le terrifiant surplomb.
« Ensuite, a-t-il dit, la voix emportée par la brise qui se levait,
« ensuite, nous escaladons tous les trois ce mur, en entier, dont le surplomb, jusqu'en haut.
« Ok, je vais être honnête. À cet instant, j'aurais mouillé mon caleçon en soie et mes knickers neufs si je n'avais pas été sûr que mon urine aurait gelé de manière fort inconfortable.
« Putain, vous n'êtes pas sérieux, ai-je dit à mon ex-ami français.
C'était la deuxième fois de ma vie que je prononçais ce mot et la première en présence de mes deux partenaires d'escalade.
J.C. a souri.
Du plus grand de ses sacs, Jean-Claude a sorti trois solides mais légers harnais de cuir, c'est le mot qui me vient, bien qu'il y ait eu des mousquetons de métal sur le devant, là où convergeaient des sangles au milieu de la poitrine et d'autres boucles et mousquetons autour de la large ceinture.
Tandis que le diacre et moi enfilions nos harnais, l'air dubitatif, Jean-Claude a simplement levé la jambe gauche aussi haut que possible, enfoncé ses nouveaux crampons 12 pointes dans le mur de glace, planté la lame de ses deux piolets courts reliés à ses poignets par des dragonnes de cuir, et s'est hissé jusqu'à tenir en équilibre sur sa botte gauche rigide. Son harnais cliquetait à cause de tous les instruments en acier qui y étaient accrochés. Une espèce de pic à glace dans son fourreau, une grande quantité de mousquetons étincelants, un grand sac de broches à glace et d'autres sacs pleins de ferrailles tout autour de sa ceinture. Il avait passé un énorme rouleau de corde à l'épaule et en travers de sa poitrine et l'a laissé se dérouler pendant qu'il commençait à grimper. Il a ensuite abaissé le piolet qu'il tenait dans la main droite, l'a secoué pour le ressortir de la glace et l'a replanté 1 mètre plus haut. Faisant toujours porter son poids sur son pied gauche, facilement, me semblait-il, il a enfoncé la pointe du pied droit quelques dizaines de centimètres plus haut, dégagé les crampons gauches et s'est hissé plus haut à la force des bras. Puis il a répété l'opération avec le piolet et les crampons gauches pour monter encore un peu. Debout sur le mur de glace, aussi désinvolte à 2 mètres de haut que s'il se tenait sur un trottoir, J.C. a regardé le diacre par-dessus son épaule en demandant « Si c'était le mur de glace sous le col Nord et que nous devions ouvrir la voie pour d'autres alpinistes et des porteurs, combien de temps croyez-vous qu'il faudrait pour tailler les marches nécessaires ?» Le diacre, qui avait enfin réussi à enfiler correctement son harnais, a plissé les yeux en examinant la paroi. « C'est trop abrupt pour tailler des marches. » « Et le surplomb ?»« C'est impossible. Les porteurs ne le feraient pas, pas même avec des cordes fixes. »« Très bien, » a dit J.C. qui ne haletait même pas en se tenant sur la paroi verticale. « Nous emporterons une échelle de cordes comme celle que Sandy Irvine a assemblée pour les porteurs l'année dernière. » C'était après que Mallory avait escaladé la cheminée. « Une fissure dans un mur de glace, » a dit le diacre. Ils ont aussi fixé une poulie pour hisser les charges. Mais dans l'hypothèse où l'on pourrait escalader ce mur en taillant des marches, a insisté Jean-Claude, ça prendrait combien de temps à votre avis? Le diacre a de nouveau levé la tête. Aveuglé par la réverbération du soleil sur la glace, il a chaussé ses lunettes. 3 heures, a-t-il répondu. Peut-être 4. Ou 5. 7, ai-je dit. Au moins 7. J.C. a souri avant de reprendre son ascension en enfonçant ses crampons et ses piolets. Il s'arrêtait tous les 10 mètres environ, creusait un petit trou dans la glace devant ou au-dessus de lui avec la pique d'un piolet, prenait une broche de 4 à 5 centimètres dans le sac à sa ceinture et l'enfonçait à la main, en biais, à un angle que j'ai estimé à 45 ou 60 degrés. Par endroits, là où la glace était trop dure pour enfoncer la broche jusqu'au bout, J.C. utilisait la pointe affûtée d'une lame de piolet ou un autre outil accroché à sa ceinture qu'il insérait dans l'œillet de la broche pour la faire tourner plus facilement. Dès qu'il avait fini de fixer une broche, il y accrochait un mousqueton qu'il testait de tout son poids, ses bottes toujours cramponnées à la glace. Même en s'arrêtant pour enfoncer les broches tous les 10 mètres, Jean-Claude progressait sur la paroi comme une araignée. Parfois, il plantait ses 2 marteaux dans la glace, seulement attachés par une corde dédoublée allant du mousqueton sur son harnais au dragon, et utilisait ses 2 mains pour enfoncer une broche. À mesure qu'il montait, il me devenait de plus en plus difficile de suivre ses mouvements. En théorie, sa corde, qu'il avait attachée au devant de son harnais par toute une série de nœuds compliqués, arrêterait sa chute s'il se détachait du mur. Cependant, si cela arrivait alors qu'il s'était hissé d'une longueur, mais avant d'avoir pu enfoncer la broche suivante, il tomberait de 18 mètres en chute libre avant d'être stoppé. Rares étaient les grimpeurs, même avec une bonne prise de pied et un possible relais, capables d'assurer un homme chutant de 18 mètres. Trop de masse, trop de vitesse. De plus, les cordes d'alpinisme en 1925 cassaient presque toujours sous ce genre de pression. J'ai alors compris que le rouleau de cordes de Jean-Claude m'avait semblé énorme non seulement parce qu'il en avait 60 mètres en travers de la poitrine au début de son ascension, mais aussi parce que la dite corde était plus épaisse que celle que nous utilisions d'ordinaire. Et Jean-Claude continuait d'escalader à la verticale cet impossible mur de glace, se déplaçant de quelques dizaines de centimètres ou de quelques mètres vers la droite ou la gauche, quand il devait éviter de la glace molle ou des affleurements. De sorte que la corde fixe qui tapissait la paroi derrière lui commençait à ressembler à une toile d'araignée. Le diacre avait sorti sa montre en or de son gousset. Il chronométrait notre ami. Quand la silhouette à présent toute petite a atteint le surplomb de 4,50 m, fait de roc et de glace, à environ 55 mètres du sol, il a fixé le mousqueton de son harnais, de poitrine ou de taille, c'était difficile à dire, à une épaisse sangle attachée à la dernière broche qu'il venait d'enfoncer à la jonction entre le mur et le surplomb. Puis il a crié, semblant à peine essoufflé, « Combien de temps ?»«
21 minutes !» a répondu le diacre avant de ranger sa montre.
J'ai vu Jean-Claude secouer la tête. Il portait un bonnet rouge à pompons.
« Avec de l'entraînement, je pourrais monter deux fois plus vite et... »
Il a regardé en bas par le V de ses jambes écartées.
« Avec deux fois moins de broches, je pense !»«
Vous nous l'avez démontré, Jean-Claude !» a crié le diacre. « Vous avez prouvé l'efficacité de votre nouveau matériel !»« C'est brillant !» « Maintenant, descendez !»
La silhouette qui se penchait, retenue par les lanières du harnais à 60 mètres au-dessus de nous, a secoué la tête. Il a crié quelque chose que ni le diacre ni moi n'avons entendu.
« J'ai dit jusqu'en haut »
a-t-il crié plus fort. À ce moment-là, je me tordais littéralement les mains d'inquiétude, ce qui était un peu idiot puisque de la bande, c'était moi le rochassier. J'étais censé adorer ce genre de passages verticaux, dangereux à pic, rocs fissurés, et même quelques petits surplombs pour ajouter des défis. Mais ça, c'était du suicide. J'ai compris à ce moment-là que je détestais la glace. Et l'idée de gravir l'Everest avec ses stupides harnais et toute cette ferraille cliquetante, les foutus quincaillers, voilà comment les alpinistes britanniques surnommaient par dérision les Allemands et les quelques Français qui utilisaient des mousquetons et des pitons métalliques sur les parois rocheuses, m'a soudain semblé obscène. Obscène et absurde. J'ai aussi réalisé à quel point j'étais nerveux. Jamais je n'avais ressenti une telle appréhension dans les Alpes quand j'avais escaladé des corniches, des arêtes, des parois et des sommets en haute altitude avec ces deux hommes. J'ai levé la tête, attendant que JC commence sa descente. Il lui restait assez de cordes pour en effectuer une bonne partie en rappel. S'il faisait confiance à ses fichues broches à glace. Au lieu de descendre, Jean-Claude Clairoux a fait une chose que j'ai peine à croire, aujourd'hui encore, 65 ans après. D'abord, son harnais toujours relié par une sangle à la broche, qu'il avait fixée tout en haut de la partie verticale du mur, JC s'est penché en arrière jusqu'à ce que la seule tension de cette laisse d'1,50 m le maintienne presque à l'horizontale. Puis, il a planté ses deux marteaux dans la glace sous le surplomb, aussi loin que le lui permettaient ses bras. Il a levé les pieds. Là, j'ai dû détourner les yeux une seconde, effrayé, avant de regarder de nouveau dans l'attente de la chute, et fermement enfoncer ses crampons dans l'angle entre le mur vertical et le surplomb horizontal. Se tenant d'une seule main, il s'est servi de l'autre pour enfoncer une profonde broche, il a dû taper dessus pour faire entrer les derniers centimètres, et j'ai entendu le bruit du métal contre le roc sous la glace. Puis il a fixé un mousqueton dans lequel il a fait passer une sorte de courroie double et s'est laissé descendre jusqu'à ce qu'il soit suspendu horizontalement à environ 2 mètres sous le surplomb. Il s'est alors mis à se balancer comme un pendule, utilisant le bout de ses crampons d'acier pour repousser le mur vertical à chaque oscillation, à la merci de cette seule broche et de cette corde, sans qu'aucune partie de son corps ne soit en contact avec le mur ou le surplomb, sauf quand il repoussait la paroi de glace avec ses pieds pour élargir l'amplitude du balancier. « Sainte Mère de Dieu !» a murmuré le diacre, ou peut-être moi, je ne m'en souviens plus. Je me souviens en revanche du mouvement de balancier de Jean-Claude sous ce surplomb de 6 mètres de large qui s'est arrêté quand il a planté ses deux piolets dans le plafond de glace au-dessus de lui. Un seul a tenu,
mais il s'est hissé à la force du bras si bien qu'il y a eu du mou dans la corde à laquelle il était suspendu. Puis il a balancé les pieds pour arrimer la pointe de ses crampons dans la paroi, et il a enfoncé le deuxième piolet. Tout bon grimpeur se doit d'être costaud. Regardez nos avant-bras et vous verrez une masse de muscles qu'on trouve rarement chez d'autres athlètes et quasiment jamais chez les profanes. Mais pour rester suspendu comme ça, à l'horizontale, pire que l'horizontale, puisque sa tête était plus basse que ses bottes cramponnées à la glace, grâce à la force de ses mains agrippées à deux courts piolets, à la force de ses avant-bras et de ses biceps, impossible. Et pourtant, il le faisait. Puis il a lâché un des piolets. Sa main gauche a tâtonné sur la ceinture de son harnais, cherchant une broche à glace dans le sac qui pendait. L'instrument lui a glissé des doigts, qui à ce stade devait avoir perdu toute sensibilité, pour tomber de 60 mètres. Le diacre et moi nous sommes écartés. La longue broche a rebondi sur un rocher entre nous, lançant des étincelles sur la neige tout autour. Très calmement, J.C. en a pris une autre et il a redressé le sac pour empêcher toute nouvelle chute. Se tenant cette fois de la main gauche, il a vissé la broche avec la droite. Il a dû utiliser les petits pics pris à sa ceinture pour l'enfoncer dans la glace, puis taper dessus pour qu'elle pénètre le roc en dessous. Comment il a réussi à faire tout ça sans se décrocher du surplomb, je ne le comprendrai jamais. Après avoir lâché quelques 2 ou 3 mètres de corde, il s'est de nouveau laissé pendre, la tête et les pieds plus bas que le torse tenu par le harnais, et s'est remis à se balancer. Le point extrême du balancier l'a mené plus loin que le bord du surplomb. Et tandis qu'il oscillait d'avant en arrière, j'attendais de voir et d'entendre les deux broches enfoncées dans le plafond de glace se détacher, l'envoyant se fracasser 10 ou 20 mètres plus bas sur la paroi, ce qui lui ferait sûrement perdre connaissance. L'un de nous deux devrait alors escalader la corde fixe pour aller chercher notre camarade inconscient ou même mort. Je ne voulais pas que ce soit moi. Mais au lieu de se décrocher, Jean-Claude poursuivait son mouvement de pendule et au deuxième passage plus haut que le surplomb, il y a planté la lame courbée des deux piolets. Les libérant l'une après l'autre, il s'est hissé une fois encore à la force des bras, qui maintenant devaient sûrement trembler à cause de la tension et des toxines. Puis il a entrepris l'ascension des 5 derniers mètres de mur au-dessus du surplomb, enfonçant ses crampons nouveau style dans la glace et vissant l'ultime broche d'acier dont il avait besoin. Seul signe de sa grande fatigue, ou du reflux d'adrénaline faisant toujours trembler les mains et les pieds du grimpeur qui vient de surmonter une situation réellement terrifiante, après avoir fixé un mousqueton et utilisé une longe en Y pour attacher son harnais et sa ceinture, il s'est penché en arrière à un angle d'environ 40 degrés pour se reposer 2 minutes. Ses piolets courts pendaient de leur dragonne. Même de tout en bas, je le voyais serrer et desserrer les doigts. Puis il a empoigné les deux piolets, s'est redressé et a repris sa progression. Le diacre et moi l'avons regardé se pencher en avant par-dessus le bord du surplomb, enfoncer la lame de son piolet droit, puis se hisser et disparaître de notre vue. 1 minute plus tard, il se tenait debout au bord du précipice et retirait de son épaule la fin du rouleau de corde en nous criant quelque chose.
« Il m'en reste environ 30 mètres !» nous a renvoyé l'écho triomphant. « J'ai accroché les deux. Il nous faudra 2 cordes pour le relais. Montez encore 30 mètres de la corde miracle du diacre que j'ai apportée dans le deuxième sac et accrochez-la au milieu de l'ascension. À qui le tour ?»
Le diacre et moi nous sommes regardés. Dans notre trio, c'était moi, je le répète, le spécialiste de la varap. Moi qui serais censé attaquer les parois rocheuses en escalade libre sur l'Everest, si jamais nous atteignions la proue du cuirassé qu'était le deuxième ressaut près du sommet, le long de l'arête nord-est à 8500 mètres d'altitude. Mais pour l'instant, j'étais terrifié.
« À moi !»
a dit le diacre. Il a passé le rouleau de la bonne corde de JC sur son épaule et s'est avancé vers le mur de glace en brandissant les deux piolets.
Aucun de nous trois ne voulant retourner dans cette pathétique auberge de Cerigidrudion, ni même s'arrêter dans tout autre endroit du pays de Galles, le diacre a pris le volant pour nous ramener directement à Londres dans le crépuscule puis la longue nuit noire. Les phares de la Vauxhall se sont encore une fois révélés presque inutiles, mais une fois sur les grandes routes, il s'est collé derrière des camions pour se guider grâce à leurs petits feux arrière rouges. Nous avions pris le temps de bien attacher la capote, les bâches latérales et les fenêtres. Le chauffage semblait enfin marcher, ou alors c'était nos corps surchauffés, et JC vautré au milieu des coussins et des sacs de matériel à l'arrière a ronflé pendant tout le trajet. Lorsque le diacre et moi parlions, c'était à voix basse et presque révérencieuse. Je n'arrêtais pas de repenser à cette journée incroyable et aux incroyables innovations de Jean-Claude qui avaient été comme des révélations. Ma propre ascension, quand mon tour était venu, n'avait pas été si terrible que je l'avais craint. Les marteaux à glace et les crampons 12 pointes, avec leurs puissants crochets devant, donnaient presque une impression d'invincibilité. De plus, le diacre ayant monté 30 mètres de ce que J.C. appelait la corde miracle qu'il avait nouée à l'autre, j'avais profité, grâce à la corde fixe, d'un double assurage. Je n'ai pu que m'en féliciter les deux fois où, trop impatient de dégager mes crampons avant d'avoir assuré ma prise suivante, je m'étais décollé du mur. Au lieu d'une ébouriffante chute de 15 mètres arrêtée, ou non, par la dernière broche en dessous de moi, la seconde corde d'assurage, tenue par le diacre et attachée à un arbre massif quelque part au-dessus du surplomb, m'avait stabilisé au bout d'un mètre cinquante. Le passage du surplomb lui-même, qui m'avait tant alarmé quand je l'avais regardé d'en bas, s'est révélé plutôt amusant. Je m'inquiétais de mon poids sur les deux broches à glace qui avaient tenu avec les deux grimpeurs plus légers passés avant moi, mais le diacre avait pris le temps, alors qu'il était suspendu à l'horizontale sous le surplomb, d'en ajouter une troisième encore plus longue, en tapant dessus comme un fou pour enfoncer les cinq ou six derniers centimètres dans la roche. Même le mouvement de balancier au-dessus des 60 mètres de vide m'avait bien plu, d'autant que j'avais réussi à planter du premier coup les lames de mes deux piolets dans la surface verticale du surplomb. Mes années d'escalade sur roc n'étaient finalement pas inutiles. J'ai grimpé les derniers mètres de la paroi de glace à la seule force de mes bras et de mes mains fermement agrippées au piolet. Une fois en haut, d'où la vue sur le Linidwall et le Cwmidwall était extraordinaire, je me suis fait réprimander par JC pour n'avoir pas utilisé les crampons sur cette dernière longueur. En réponse, je n'ai pu que lui adresser un sourire béat. Nous sommes redescendus en rappel l'un après l'autre, laissant la deuxième corde d'assurage en place, puis avons passé le reste de la journée à nous entraîner sur des pentes plus basses. Seule la nouvelle corde du diacre nous donnait la confiance nécessaire pour redescendre en rappel, d'un diamètre supérieur aux cordes classiques. Elle était faite d'un mélange de chanvre et d'un matériau secret qu'il a refusé de nous révéler, mais qui donnait une plus grande élasticité et beaucoup plus de solidité. En 1924-1925, peu d'alpinistes se fiaient à leurs cordes, que le diacre appelait désormais nos vieilles cordes à linge, pour des rappels aussi longs. Pour rester éveillé pendant le long trajet jusqu'à Londres, et pour tenir compagnie au diacre afin qu'il ne s'endorme pas au volant, mon esprit fatigué passait en revue les termes français relatifs à ces nouvelles techniques d'escalade glaciaire que J.C. avait tenté de nous inculquer. Pied-marche. Une marche simple sur une surface de glace plate ou une faible pente jusqu'à 15 degrés, ce que nous avions déjà souvent fait ensemble avec des crampons 10 pointes. Pied en canard, sur des pentes jusqu'à 30 degrés avec des crampons 12 pointes. Ça donnait une démarche et des sensations aussi ridicules que le nom l'indiquait, mais on pouvait pour ça utiliser nos vieux piolets plus longs. Pied à plat, les 10 pointes sous chaque crampon maintenaient le corps droit, latéralement à la pente, sur des déclivités allant jusqu'à 65 degrés. Une bonne façon de se reposer avec le piolet planté vers l'amont. Puis il y avait les classiques mouvements de piolet. Piolet ramasse sur des pentes de 35 à 50 degrés, un moyen élégant d'effectuer des traversées, et piolet ancre, la technique d'ancrage pour grimper ou effectuer des tâches telles qu'enfoncer des broches à glace avec sa main libre sur des pentes plus fortes. Les marteaux à glace possédaient leur propre vocabulaire pour désigner l'angle de pénétration de la lame ou la façon de tenir l'outil pendant l'ascension, etc. De cette première journée, j'avais retenu les termes piolet panne pour des pentes de 45 à 55 degrés, piolet poignard pour les pentes de 50 à 60 degrés, et piolet traction pour des pentes supérieures à 60 degrés, des parois verticales et des surplombs, que nous avions beaucoup pratiqué ce jour-là. Puisque ces dernières techniques étaient toutes utilisées avec des grands ponts de devant, et que Jean-Claude avait dit les avoir apprises des Allemands et des Autrichiens avec qui il avait escaladé au mois de décembre, je ne comprenais pas très bien, il n'y avait aucun terme allemand. La réponse était simple. Les Allemands et Autrichiens avaient gardé les anciens termes français en usage avec les crampons dix pointes et les longs piolets, et en avaient ajouté d'autres en français. L'Europe. Sur les pentes moins raides, mais néanmoins très glissantes, où nous nous étions entraînés cet après-midi-là, j'avais aussi commencé à apprendre ce que j'appelle, aujourd'hui encore, après les avoir pratiqués des milliers de fois depuis, les pas de danse. Pieds à plat, piolet ramasse. Par exemple, une manière de grimper latéralement à la pente en utilisant le piolet court comme ancrage. J.C. avait effectué le mouvement avec une telle élégance sur une très forte déclivité que c'était un régal pour les yeux. Jambe gauche fléchie, côté pente, jusqu'à ce que ses genoux se touchent presque. Piolet court tenu à deux mains et planté plus haut dans la pente. Puis la jambe droite passait par-dessus la gauche, comme en un pas de danse compliqué. Et quand l'extrémité du piolet et 10 des 12 pointes du crampon droit étaient de nouveau bien ancrées dans la glace, on balançait la jambe gauche plus haut, jusqu'à ce que les 10 crampons de ce pied-là s'accrochent fermement. Puis, on recommençait. Jean-Claude nous avait montré plusieurs façons de se reposer au milieu d'une pente raide et puisante. Ma préférée était le simple pied assis. Penché en arrière, dos à la pente, et les fesses touchant presque la glace, jambe gauche repliée et crampons bien plantés dans la paroi, jambe droite étendue et cheville tournée vers la droite, de sorte que la botte et ses crampons formaient un angle presque droit par rapport à la direction du genou. On n'avait pas besoin de piolet ou de marteau à glace pour tenir cette position, et on pouvait rester ainsi tant qu'on n'avait pas de crampes dans les muscles des jambes et des cuisses à examiner la pente ou à admirer le paysage. Mais nous avons passé la plus grande partie de ce radieux après-midi gallois à apprendre à manier les piolets courts et les marteaux à glace, à pratiquer les techniques de cramponnage en pointe avant, en n'utilisant que les deux pointes frontales des crampons, en position d'ancrage, pointe avant en position de traction, pointe avant avec le piolet panne, avec le piolet poignard, la méthode suivie pour grimper le mur de glace verticale, la position dite pied troisième, et ainsi de suite. Le reste de l'après-midi, nous avons pratiqué des techniques de traversée et de descente sur glace, en particulier la descente rapide. J'avais toujours adoré descendre des champs de neige en glissade, en utilisant seulement mon piolet ordinaire comme gouvernail et pour m'arrêter en bas. Là, J.C. nous a montré comment descendre pied à plat sur les crampons en adoptant la position du piolet ramasse ou en laissant le piolet traîner derrière soi comme une ancre, ce qui permettait de descendre presque aussi vite et sur des pentes beaucoup plus inclinées. Vers la fin de l'après-midi, sur une pente raide et enneigée sous une face rocheuse, Jean-Claude nous avait montré sa dernière prouesse technique. Il s'agissait d'un outil de métal assez léger, de forme biseautée, doté de ressorts en acier qui se détendaient d'une pression de la main et restaient compressés sinon, capable de glisser le long d'une corde fixe. J.C. avait péniblement gravi la pente dans ses nouveaux crampons 12 pointes, fixé la corde miracle du diacre à un long piolet enfoncé dans la glace sous les blocs, à environ 150 mètres au-dessus de nous, renforcé cet assurage avec plusieurs broches à glace, puis il avait retiré ses crampons et s'était laissé glisser le long de la corde qui ressemblait à une longue ligne de faille noire sur la neige étincelante. J.C. avait fabriqué une de ces pinces pour chacun de nous. « C'est simple, non ?» avait-il dit. « Il suffit de relâcher complètement la pression de la main pour que le mécanisme se bloque sur la corde. On pourrait rester suspendu si on voulait. Puis, en serrant ne serait-ce qu'un tout petit peu, on recommence à glisser. » En serrant fort, il n'y a plus du tout de friction sur la corde. Et à quoi pourrait bien nous servir ce gadget, avais-je demandé, mais j'avais vu que le diacre avait saisi l'idée. Ce serait encore mieux de l'attacher à un harnais léger, avait-il dit. Ainsi, on aurait les deux mains libres tout en restant attaché à la corde fixe.
Exactement,
s'était exclamé Jean-Claude. Je travaille justement sur un harnais de ce genre, en cuir et en toile. Mais pour aujourd'hui, on essaie avec la main, d'accord?
Là-dessus, J.C. avait pincé son petit mécanisme sur la corde fixe et commencé à le faire glisser vers le haut à mesure qu'il grimpait, même sans crampon. Le diacre était passé ensuite et avait très vite saisi le coup de main.
Il m'avait fallu un tout petit peu plus de temps pour savoir quand serrer ou desserrer les doigts, mais j'avais bientôt mesuré l'avantage, en termes de sécurité, de grimper avec ce petit accessoire à ressort qui s'accrochait à la corde bien plus solidement que nos mains gantées. Il offrirait encore un meilleur assurage s'il était attaché par une longe ou un mousqueton au harnais dont mes deux compagnons venaient de parler. Alors que nous nous tenions tous les trois en haut de cette pente de 150 mètres, un vent froid s'était levé. Le soleil se couchait derrière les pics à l'ouest. La lune était apparue à l'est.
« À présent, nous allons l'utiliser pour une descente contrôlée », avait dit Jean-Claude. « Vous verrez, je crois qu'on peut s'en servir même sur des cordes fixes verticales. C'est, comment dites-vous, infaillable ?»«
Infaillible », l'avait corrigé le diacre. « Montrez-nous la descente rapide. »
J.C. avait donc détaché son mécanisme de la double ligne de corde fixe, double afin que nous puissions la récupérer après notre descente en rappel, et retiré le piolet, si bien que seules les profondes broches à glace assuraient la double corde. Il avait raccroché son outil sur la corde en dessous de moi et s'était lancé dans une rapide glissade sans crampon qu'il contrôlait seulement en serrant et desserrant les ressorts dans sa main.
Incroyable !
Avais-je soufflé quand le diacre et moi étions arrivés en bas après l'une des glissades les plus rapides que j'avais jamais effectuées.
Nous nous entraînerons encore avant notre départ, puis pendant la longue marche jusqu'à l'Everest, avait dit Jean-Claude.
Dans la pénombre du crépuscule, il s'était soudain mis à faire très froid. J.C. était déjà en train de libérer la corde de l'œillet des broches à glace pour la récupérer.
« Lui avez-vous donné un nom ?» avait demandé le diacre.
J.C. avait souri en enroulant d'un geste expert la longueur de corde miracle entre son poing et son coude.
« Jumar !» avait-il répondu.
« Qu'est-ce que ça veut dire en français ? » avais-je demandé.
« Rien !» avait répondu J.C.
« C'était le nom de mon chien quand j'étais petit. Il était capable de grimper à un arbre pour pourchasser un écureuil. Je n'ai jamais vu de meilleur grimpeur. »«
Jumar !» avais-je répété. Drôle de mot. Je n'étais pas sûr de m'y habituer un jour. Cela fait des mois que je m'inquiète à cause du dernier mur de glace entre le glacier du Rongbuk et le col Nord sur l'Everest, m'a dit doucement le diacre alors que nous approchions de Londres dans l'aube grise de l'hiver. J'ai hoché la tête, me réveillant à moitié.
Pourquoi ? Ai-je murmuré.
En 1922, Finch, vous et les autres avez trouvé des pentes enneigées pour monter au col. Et vous avez taillé des marches pour les porteurs.
En juin dernier, il n'y avait plus de pente enneigée, mais cette fissure, la cheminée de glace que Mallory a escaladée. De là-haut, il a pu lâcher des cordes fixes et l'échelle rafistolée par Sandy à Irvine.
Le diacre a légèrement secoué la tête. Mais le Rongbuk est un glacier, Jake. Il se soulève, recule, se fissure, se fendille, se déplace, s'affaisse, forme ses propres crevasses. Notre seule certitude... c'est qu'il ne sera pas tel qu'il s'est présenté à Mallory l'année dernière, lui permettant d'exhiber ses techniques de grimpe, ou à Finch et moi 2 ans avant. Ce printemps, il y aura peut-être des fissures dans ce mur de glace que nous pourrons escalader, ou de nouvelles pentes enneigées, ou 60 mètres d'une paroi de glace verticale.
Si c'est le cas, ai-je dit d'une voix fatiguée, mais néanmoins un peu bravache, J.C. et ses nouveaux crampons à pointe avant, ses petits piolets ridicules et ses...
comment les appelle-t-il déjà ? Ces jumards nous ont fourni les armes pour l'attaquer.
Le diacre a roulé en silence pendant un moment. J'ai vu le dôme de la cathédrale Saint-Paul apparaître à l'horizon.
« Eh bien, Jake, a-t-il dit, je dois en déduire que nous sommes prêts à aller gravir l'Everest. »